week-end sur IDFM Radio.
IDFM Radio, 88 FM.
Bonjour, bonjour. Grosse émission aujourd'hui pour l'émission de la famille, 8h-9h30. Je recevrai dans un instant Nathalie Chouraki-Gerson qui a créé le salon des marques dans l'industrie des licences en France. Le salon s'appelle Cobrands, c'était début avril. Nous échangerons aussi avec Franck Mattet, porte-parole de Jouet Club. Qu'est-ce qu'une licence? Comment ça fonctionne tout ça entre les différentes marques? Mais juste avant, nous allons accueillir une équipe de choc pour nous parler de la Coupe du Monde, de la chocolatine et du pain au chocolat. Cette Coupe du Monde s'est tenue il y a quelques jours, en mars dernier, à Toulouse, et j'accueillerai notamment Youssef El Ghiatou, qui est pâtissier, boulanger, bien plus encore, à la Maison Héloïse, sur Argenteuil. Bienvenue sur IDFM Radio.
Comme si t'étais la seule au monde au final, je plaide coupable quand tu me juges au pénal, mais tu ne vois pas d'anomalie, oh oh oh, y'a qu'à moi que ça arrive, oh oh oh. Je prends tes phrases comme des coups d'opinel, malgré tes larmes tu me fais mal au final, mais tu ne vois pas d'anomalie, oh oh oh, y'a qu'à moi que ça arrive, oh oh oh.
Dis-moi pourquoi tu t'isoles, colossal, dis-moi pourquoi tu t'isoles, et colossal.
Si t'es diamant, siempre quiero que respondas, dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal. Si t'es diamant, siempre quiero que respondas, dis-moi pourquoi toujours se faire autant de mal.
Dime por qué te gusta que me duela. Me tienes en locura y sin la vela. Recuerda mis canciones a capela. Me traje desvelado y tus recuerdos vuelan. En mi mente siempre estás constantemente. Por no tenerte cerca me vuelvo un demente. No tienes idea de cómo se siente. Te extraño tanto y no quiero un suplente.
Dime por qué tú tizas.
Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal. Hacerme tanto mal. Si te llamo siempre, quiero que respondas. Dime por qué quieres hacerme tanto mal.
Si te llamo siempre.
On parle de la Coupe du Monde, de la chocolatine et du pain au chocolat dans un instant avec Youssef, Abdel, Issa, mais aussi Fatima. Ils sont valdoisiens. Ils sont partis il y a quelques jours représenter le Maroc pour la Coupe du Monde de la chocolatine et du pain au chocolat. IDFM Radio rencontre avec ses pâtissiers et boulangers dans un instant sur IDFM Radio.
Para llamar mi atención, me tiras dardos, pan directo. Pero si me robas dos besos, al tercero ya ni lo pienso. Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa. Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos, me drogan tus labios, tus bíceps me ponen cien. A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo.
Youssef El Gatou, une nouvelle fois, est avec nous aujourd'hui sur IDFM Radio. Bonjour Youssef.
Bonjour Christophe.
Comment toujours en pleine forme, ça va très bien, et toi aussi je suppose?
Ça va, on est à la maison là, hein. Comme à la maison, tout va bien.
Toujours à Argenteuil, la maison Héloïse, c'est 14 avenue Gabriel Péri. Hein.
C'est ça.
Tout se passe bien puisque là tu reviens dernièrement de la Coupe du Monde, de la chocolatine et du pain au chocolat. Ça s'est pas trop mal déroulé, c'était une première pour toi. Tu as emmené toute une brigade qui nous entoure aussi aujourd'hui. On va les présenter un à un. Je rappelle que tu aimes ça, en tout cas, les concours. Hein. Il y a eu le croissant au beurre AOP, il y a eu la galette, il y a eu aussi d'autres types de pâtisseries.
Oui, c'est ça. Alors, on fait pas mal de concours. C'est quelque chose qui nous passionne, qui nous plaît. Et là, pour le coup, c'était un concours international. Là, on était plus sur quelque chose de départemental ou de régional, mais c'était quelque chose d'international. Donc, une Coupe du Monde, c'est quelque chose, c'est une opportunité qu'il fallait saisir. On m'a confié cette tâche et puis on a monté une belle équipe.
Une équipe avec des pâtissiers qui viennent d'un petit peu partout, notamment une Belge, on va en parler dans un instant. Ça s'est déroulé sur 3 jours, du 8 au 10 mars. Tu es parti à Toulouse, assez confiant, avec tes ustensiles de cuisine pour préparer finalement le meilleur pain au chocolat ou la chocolatine?
Alors pour nous les Parisiens, c'est le pain au chocolat. Et oui, on s'est préparé. Et puis, je tiens à remercier d'ailleurs la boulangerie-pâtisserie Moulin du Lac qui a pris en charge notre matériel et qui nous l'a descendu avec son véhicule. Et puis, oui, on est parti avec tout notre matériel. La brigade a pris l'avion. Et puis, on s'est tenu prêt. On s'est un petit peu entraîné. Bon, alors c'était très court, mais on a pu quand même être dans le top 10 mondial.
15 pays étaient représentés lors de cette Coupe du Monde, la France, le Vietnam, le Maroc. Tu représentais justement ce pays, c'est tes racines. Tu es né au Maroc ou pas?
Alors non, je suis né en France, mais j'ai cette double culture, je suis franco-marocain. Donc j'ai mes attaches au Maroc, je les ai aussi en France et puis voilà.
Mais tu n'as pas pu postuler du coup pour représenter la France?
Non, parce qu'il y avait une sélection, je l'ai appris bien après. Qu'il y avait une sélection pour... C'était d'ailleurs, je crois, à Toulouse. C'était une sélection et puis les 4 meilleurs représentaient la France.
C'était assez chaud quand même face à un savoir-faire précis pour certains pays. C'est la France qui a gagné, mais tu aurais très bien pu gagner puisque tu nous l'as dit, tu es la double nationalité. Tu es français, marocain.
Oui, bien sûr. Et puis on était contents aussi pour la France. Et puis la place était amplement méritée pour le premier. Après, on a fait de bons résultats. Dans la catégorie junior, on a Issa Mafala qui a fait un super score, qui est arrivé premier en dégustation et il a la cinquième place mondiale du pain au chocolat et de la chocolatine.
Voilà. Bravo Issam, il est avec nous. Bonjour Issam Afala.
Bonjour.
Tu es pâtissier, tu as 22 ans et tu travailles depuis 5-6 ans environ ici à Enghien-les-Bains, comme l'a précisé Youssef, chez le Moulin du Lac. Moulin du Lac, on dit le Moulin du Lac ou Moulin du Lac, je ne sais plus.
Le Moulin du Lac.
Le Moulin du Lac est juste là, hein, au pied de la radio, géré par Karim et Ali. Pour toi, c'était ta première Coupe du Monde de cette chocolatine et du pain au chocolat?
Oui, pour moi, c'était une première, un premier challenge, un très, très, très gros concours, grosse pression. Donc, je ne savais pas dans quoi me lancer, mais on était très motivés avec l'aide de Youssef et les camarades qui sont là avec nous. Et puis, on a foncé, quoi. On a foncé, on s'est dit, on va bosser matin jusqu'au soir pour qu'on puisse au moins y participer.
Tu as bossé quelques semaines avant. À quel moment Youssef El Gatou t'a annoncé « Allez, tu viens avec moi, je t'embarque. On part à Toulouse dans quelques jours pour participer à cette Coupe du Monde. »
Je dirais à peu près une dizaine de jours. Donc, comme il a dit, Youssef, c'était très très court pour pouvoir s'entraîner. Mais bon, on a fait ce qu'il fallait. Il nous restait 10 jours, donc on s'est mis la pression. Et puis voilà quoi, on a bossé jusqu'au moment venu.
Tu t'es entraîné chez lui à Argenteuil ou aussi à Enghien?
Moitié-moitié, de temps en temps à Enghien et de temps en temps chez Youssef, qui a eu la gentillesse de m'accueillir dans ses locaux et surtout de pouvoir évoluer et partager avec les camarades du pain au chocolat.
Très rapidement, comment tu es arrivé ici à Enghien-les-Bains, au Moulin du Lac?
Alors là, je m'en rappelle
plus.
Je suis arrivé, j'ai postulé et puis j'ai postulé en apprentissage. J'ai fait mon apprentissage ici, j'ai eu mon diplôme et puis les patrons m'ont fait la proposition de rester et puis je suis resté quoi.
Le jour du recrutement, t'es venu avec ton pain au chocolat? Non.
Non, 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 parce que je savais pas que j'allais participer. Donc je suis venu comme tout le monde avec un CV à la main et puis voilà quoi.
Nous sommes aussi avec Fatima Adam. Merci aussi d'être avec nous aujourd'hui sur l'invitation de Youssef El Gatou. On parle de la Coupe du Monde de la chocolatine et du pain au chocolat qui a eu lieu en mars dernier. Tu es belge, aujourd'hui tu vis dans le 91, donc tu fais pas mal d'allers-retours entre la Belgique où tu as vécu toute ton enfance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui tu es donc situé dans le 91, mais tu travailles aussi à Paris dans le 10e arrondissement, chez le célèbre chef Michalak. C'est une grande fierté quand même, ça.
Du coup, c'était mon rêve et c'est pour ça que je suis venue habiter en France pour travailler pour lui. C'est avec lui que j'ai commencé aussi la pâtisserie, en le regardant à la télé, en lisant ses livres et voilà.
Qu'est-ce que tu aimes chez lui?
Tout son style qui est assez particulier, assez simple, mais en même temps très, très travaillé. Et voilà, il va droit au but, à l'essentiel.
Sa spécialité, c'est quoi?
Sa spécialité, je dirais sa prise électrique en chocolaterie.
Tu l'as suivi aussi, toi, Youssef Michalak, c'est quelqu'un qui t'inspire, qui te fascine?
Oui, complètement. Et puis même humainement, c'est quelqu'un de très sympa. J'ai fait sa rencontre au village gastronomique. C'était le 7 septembre. D'ailleurs, vous étiez là, Christophe?
Oui, j'étais là avec Chef Enzem.
Exactement, notre fameux ami Chef Enzem. Donc oui, j'ai fait sa rencontre à Christophe. Une amie qu'on avait en commun a fait la présentation, on a discuté un petit peu. Et oui, j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très humble, très gentil, très très sympa et facile d'accès.
Et toi, tu la connaissais comment, Fatima?
Alors, elle travaillait dans une grande maison parisienne où je suis passé. Et donc, on avait des collègues en commun et des amis en commun. Donc voilà, on a échangé quelques infos. Elle avait un concours. Je me suis proposé de lui donner un coup de pouce. Et puis on était partenaire sur éventuels, enfin d'autres projets, ainsi que mon défilé de robes en chocolat et plein d'autres choses comme ça. Et la Coupe du Monde de la chocolatine pain au chocolat.
Passion Chocolat, c'était ton salon, effectivement, première édition à Argenteuil. Je ne sais plus la date, c'était février, c'est ça? Vers le 8 février, non? Non. 3 février. Tu sais même plus, toi non plus. Tu fais tellement de choses.
Samedi 3 février, oui, c'est ça. On avait fait un super événement, un défilé de robes en chocolat avec de la démonstration, de la dégustation. Fatima nous a fait une belle pièce artistique en chocolat. Et puis voilà, c'était le moment, c'était l'occasion de réunir la population, les Argenteuillais. Il y avait des seniors, il y avait des enfants, il y avait vraiment tout âge confondu, et c'était quelque chose de très sympa et de très chaleureux.
C'était quoi justement cette pièce artistique, Fatima?
C'était sur le thème de la nature, donc il y avait des cabosses de cacao et des fleurs, c'était très, très floral.
Tous les deux aussi, on vous a vu dernièrement, il y a à peu près une quinzaine de jours à la télé, sur M6. Des équipes sont venues suivre un petit peu votre travail. On suivit surtout le parcours hein, de Fatima. Toi, on te voit quand même, à un moment donné, un petit peu au début, je crois que c'était plus au début du reportage.
Oui, c'est ça.
C'est passé le lundi 1er avril. Ce n'était pas un poisson, c'était le lundi de Pâques en plus.
C'est ça. À 14h sur M6, c'était un jour, un doc, je crois. Et c'est un reportage sur le chocolat et principalement sur Fatima. Et donc, sur le reportage, il y a un petit passage où elle vient chez nous s'entraîner et préparer ses petits croquis et ses tests pour ce fameux concours de Pascal Café.
C'était sympa, c'était assez amusant. Tu te prêtes facilement à ce jeu de l'interview, reportage, télé?
C'est un exercice. Surtout au début, j'étais très stressée, c'était tout nouveau. Mais après, quand je suis arrivée dans le labo, j'étais un peu plus dans mon élément, donc la pression est redescendue.
T'as oublié le caméraman, finalement, le journaliste. T'étais vraiment à fond dans ton job.
Oui, c'est ça, en fait. Quand on est dedans, on s'oublie, enfin, on oublie ce qu'il y a autour de nous et on se concentre sur le travail.
C'est toujours très agréable aussi, Youssef, pour nous, en tant que public, de découvrir comment ça se passe. Ce qu'on ne sait pas, c'est un long processus. Hein. Nous, on le mange comme ça, rapido, en même pas une minute, hein, pas en chocolat ou même un croissant. Mais derrière, il y a une recette, il y a une façon de faire, il y a un savoir-faire assez précis. Et puis, souvent, vous vous cassez la tête pour trouver un goût qui vous corresponde.
Oui, bien sûr, c'est tout un travail, tout un process. Un pain au chocolat, on y met 2 jours, par exemple, pour le faire au moins. Et puis pour vous parler de ça, justement, ce concours, on nous imposait dans le cahier des charges de faire un pain au chocolat revisité. Et donc notre junior, par exemple, Issam, nous a fait un coriandre de passion. C'est pour ça qu'il est arrivé premier en dégustation. Fatima est partie sur caramel, noix de pécan, banane, caramel, banane, noix de pécan. Abdel est parti sur de la noisette, du chocolat. Et moi, le coquelicot.
D'accord. Pourquoi la coriandre? D'où vient cette idée de rajouter ça à ton pain au chocolat?
La coriandre, c'est un produit qu'on utilise beaucoup dans la gastronomie marocaine. On en met particulièrement pratiquement dans tous les plats, que ce soit tagine, etc. Donc, j'ai voulu associer cette plante-là avec de la fruit de la passion pour rappeler en fait qu'on mange un pain au chocolat qui est français mais avec des petites particules du Maroc en fait, donc c'est un petit rappel.
Au Maroc, tu as déjà mangé un bon pain au chocolat? Tu connais une adresse, une boulangerie?
Oui, il y en a pas mal, hein, même un peu partout au Maroc, hein, du nord au sud, vous pouvez trouver de belles pâtisseries comme de belles viennoiseries. Et pour le coup, des pâtisseries ou des viennoiseries classiques, après des revisités, on n'en voit pas forcément partout, même en Europe, hein. On n'en voit pas énormément. Là, on est vraiment parti sur, quand j'entends le caramel, banane, noix de pécan, voilà, c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement. Pareil pour la coriandre et la passion. Moi, je suis parti sur framboise coquelicot, une fleur, un fruit. Voilà, c'est des choses qu'on ne trouvera pas forcément partout, mais on trouve aujourd'hui un peu partout en Europe, voire en Afrique, des produits similaires.
C'est vrai qu'on est un peu tous comme ça. On préfère le pain au chocolat avec sa barrette au milieu. Voilà, c'est 2 bouts de bâton de chocolat. Et dès que c'est revisité, alors ça peut faire plaisir sur le moment. On a envie de goûter la nouveauté. Ce que tu proposes, toi, régulièrement à Argenteuil, de temps en temps, il y a bien un mois où vous lâchez sur les éclairs. Et elles sont plus tout à fait au chocolat. Il peut y avoir la framboise, il peut y avoir des petites paillettes dessus. Il faut que ce soit ponctuel, en fait, ces spécialités, ces nouveautés, mais peut-être pas sur toute l'année.
Oui, il y a des périodes, on essaye de varier un petit peu en fonction des saisons, pour les fruits par exemple. Là en ce moment, il y a ce fameux crookie, un croissant et un cookie. Donc c'est quelque chose qui est très demandé, donc on s'est un peu plié à la demande de nos gourmands sur Argenteuil par exemple. Mais oui, en général, on essaye tous les mois de faire quelque chose de nouveau.
Et est-ce que Issam, ce pain au chocolat à la coriandre, il a été proposé ici à Enghien-les-Bains, au Moulin du Lac ?
Pas encore, mais je pense qu'on le mettra à la carte. Pas encore.
Très bien, on va continuer à échanger avec vous quatre. On n'a pas encore parlé avec Abdel, mais on a plein de questions à lui poser d'ici quelques minutes sur IDFM Radio. On revient sur la Coupe du Monde de la chocolatine et du pain au chocolat qui a eu lieu à Toulouse. C'était du 8 au 10 mars avec l'équipe marocaine qui est avec nous aujourd'hui, représentée par Youssef El Gatou, qui est pâtissier boulanger. On est d'accord, pâtissier boulanger. La Maison Héloïse, c'est pâtissier boulanger. Oui. Donc la Maison Héloïse à Argenteuil, qui se trouve 14 avenue Gabriel Péri. Rappelle-moi, 7 ans, c'est ça, d'existence pour la Maison d'Héloïse ?
Ça, depuis le mois d'avril, ça fait 7 ans maintenant.
Eh bien bravo. À tout de suite sur IDFM Radio.
Les secondes, je vois passer le jour, j'aimerais en faire le tour. J'ai tous les mots qui collent à ma peau, j'ai tant de choses à dire, mais si peur d'en souffrir. Est-ce qu'on m'entendra un jour? Est-ce qu'on m'entendra de loin? Est-ce qu'on m'attendra toujours? Est-ce qu'on m'aimera demain? Être aimé pour de vrai, et puis tirer un trait sur le passé douloureux, sur les larmes dans mes yeux. Être aimé comme je suis, et puis changer de vie, car moi tout ce que je veux, c'est des étoiles dans les yeux. Par la fenêtre, je vois passer mes rêves. Ils s'envolent avec le temps, ils s'envolent après le vent. Mais cette fois je me lève pour enfin être celle qui a eu tout le courage de toucher les nuages. Je commence à y croire, je trouverai ma place un jour, je trouverai enfin ma voix, et on ne verra que moi. Être aimé pour de vrai, et puis tirer un trait sur le passé douloureux, sur les larmes dans mes yeux. Être aimé comme je suis, et puis changer de vie, car moi tout ce que je veux, c'est des étoiles dans nos yeux. Je veux qu'on me regarde, que ma voix vous embarque. Fini les heures à attendre, je suis sortie de ma chambre. Être aimé pour de vrai, et puis tirer un trait sur le passé douloureux, sur les larmes dans mes yeux. Me voilà comme je suis, prête à changer de vie, car ce soir ce que je veux, c'est des étoiles dans nos yeux, dans nos yeux.
IDFM Radio, nous sommes avec des Valdoisiens aujourd'hui pour vous parler de la chocolatine et du pain au chocolat à l'occasion d'un concours de la Coupe du Monde de ce pain au chocolat ou de cette chocolatine. C'est vrai qu'il y a toujours cette difficulté ici en France, mais j'ai l'impression un peu partout à travers le monde, toujours ce débat, est-ce que c'est une chocolatine ou un pain au chocolat. En tout cas, moi quand je vais à la boulangerie, je demande toujours un pain au chocolat, comme toi Youssef d'ailleurs.
Bien sûr.
Youssef El Gatou, qui est avec nous, qui est le responsable de la boulangerie-pâtisserie La Maison Héloïse à Argenteuil. Nous sommes aussi avec Fatima Adam, qui travaille à Paris dans le 10e arrondissement pour le chef Christophe Michalak. Nous sommes aussi avec Issam Afala, qui lui travaille au Moulin du Lac à Enghien-les-Bains. Et nous sommes aussi avec Abdel, qui n'a pas encore parlé. Abdel Chiaou, qui a 33 ans, qui est chef pâtissier à la maison Héloïse. Ça va? Tout se passe bien avec... Youssef, comment tu l'as rencontré? Comment tu as postulé pour rentrer au sein de la boulangerie La Maison Héloïse à Argenteuil?
Alors c'est un ami à nous qui nous a mis en contact et donc il y a eu tout de suite un feeling, on s'est très bien entendu professionnellement et,
Tu l'as toujours suivi dans ses concours, dans ses délires aussi, il a fait une multitude de concours pour présenter ses différentes pâtisseries?
Oui, toujours, alors on a fait beaucoup de concours. Moi, ça fait un an et demi que j'ai rejoint le navire. Et en un an et demi, on a dû faire 5 concours. Et toujours ou des podiums ou très proche du podium.
Tu étais partant pour partir direct pour cette Coupe du Monde à Toulouse ou un peu hésitant? Oui, toi, tu préfères plutôt être en retrait? Tu sais ce que tu as à faire?
Alors, un peu des deux. Et j'aime bien quand on fait appel à moi, être là pour... pour faire ce qu'il y a à faire.
Et puis Youssef est quand même là pour te donner beaucoup de motivation et te dire allez, on y va, on fonce, tu vas voir, même si on n'arrive pas numéro un, c'est pas grave. En tout cas, c'est un challenge, c'est aussi se donner des défis dans la vie, relever ça, aller plus haut.
Exactement. Alors oui, Youssef, il est très fédérateur, c'est un très bon manager, il sait encourager son équipe, il donne les moyens. Il donne du temps, c'est un passionné. Donc du coup, avec lui, on a pu tous donner le meilleur de nous-mêmes.
Tu es chef pâtissier donc à Argenteuil. Tu gères combien de pâtissiers, d'apprentis, de pâtissiers ou pâtissières?
Alors, on a une brigade de 9 personnes. Voilà.
Il y a beaucoup de pâtissiers, en tout cas, aujourd'hui, en face de nous. On est quand même avec une pâtissière, Fatima. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes, quand même, ou pas, dans ce milieu-là? Ou tu dirais que c'est quand même encore un peu masculin?
C'est un milieu qui est assez masculin, mais qui commence à se féminiser de plus en plus, et aussi en boulangerie.
Toi, quand t'es arrivée, tu as hésité ou pas? Non, le fait de voir tous ces hommes, tu t'es dit, oh là là, non.
Pour la Coupe du Monde, non, parce que...
Pas forcément pour la Coupe du Monde, mais en règle générale, quand tu as décidé de démarrer cette activité professionnelle de pâtissière.
Non, et surtout, c'était un challenge de me confronter aux hommes et de faire le même travail qu'eux.
Et Youssef, pour la Coupe du Monde, beaucoup d'hommes quand même. Parmi tous ces pays représentés, 15 pays pour la Coupe du Monde de la chocolatine et du pain au chocolat.
Oui, effectivement, et elles étaient très rares les femmes. On avait le Vietnam, je crois, et puis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui, et la Tunisie. Oui, elles étaient en minorité, mais elles étaient là et on était contents de les voir. Et puis elles étaient surtout au même niveau, voire mieux. Hein, il n'y avait pas de différence. Voilà.
Qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement au concours? Parle-nous un petit peu des différentes étapes. Donc ça a eu lieu 3 jours hein, à Toulouse, je le reprécise, du 8 au 10 mars. Il y avait 2 catégories, les 8 et 9 mars. Comme disait Youssef Orantène, c'était pour toi, Issam, hein, parce que c'est la catégorie moins de 25 ans. Bon, les autres sont un petit peu plus vieux, Fatima et Abdel, mais c'est pas grave. Vous, ça s'est déroulé finalement sur une seule journée, le 10 mars?
Non, c'était sur 2 jours.
Ah, 2 jours aussi, quand même.
Donc le 10 et le 11, c'est ça? 10 et le 11. Le 9 et le 10.
En fait, 8-9 pour les moins de... 9, tu m'as dit 8.
8-9.
Oui, 8-9 pour les moins de 25 et 9-10 pour les plus de 45 ans. Non, je plaisante. Pour le reste, en tout cas, pour ceux qui ont plus de 25 ans.
C'est ça. Donc on avait 2 jours. La première journée, on avait 2 heures. Donc pour préparer... ben tout, la détrempe, le beurre de sourage.
C'est voilà. Quoi la détrempe, très rapidement?
C'est le mélange qu'on fait donc la veille pour une pâte à croissant, enfin une PLF. Donc c'est du beurre, de la farine, de l'eau, du lait, enfin chacun a sa petite recette. Donc on avait 2 heures pour faire toutes les préparations et le lendemain on avait 3 heures. Donc pour toutes les finitions, la cuisson, la décoration et pour tout terminer.
Et le four, il était bien, parfait, à bonne température pour toi quand tu as enfourné le pain au chocolat, ou même c'est plusieurs, en fait, vous devez en proposer plusieurs, parce que face à vous, ils sont peut-être 15, 20 membres du jury. Il ne faut pas fabriquer qu'un seul pain au chocolat, il faut en faire combien au total ?
On avait 12 pains au chocolat classiques et 12 pains au chocolat revisités.
C'était quand même beaucoup de stress, un petit peu ou pas. Tu as l'habitude peut-être de faire le pain au chocolat, mais là, comme c'est un concours, tu te mets un peu plus de stress du coup.
Oui, c'est stressant, et surtout quand on est face à des jurys, donc des meilleurs ouvriers de France ou des champions du monde, c'est encore plus stressant. Mais ils étaient bienveillants, ça s'est bien passé.
Issam aussi, c'était assez cool, c'est très rapide finalement, 2-3 heures, c'est assez, c'est pas assez pour réaliser cette chocolatine ou ce pain au chocolat ?
Bah, 3 heures, en fait, c'est, moi je trouve ça très juste, parce qu'en fait, il faut tourer la pâte, la baisser, la mettre en pousse, la cuire, donc 3 heures, pour moi je pense que c'est très juste, parce que c'est quand même du temps, hein, faire un pain au chocolat, c'est pas une pâte, faut pas la brusquer, faut lui accorder son temps de repos.
C'est de l'amour.
Ouais, on peut dire ça comme ça aussi.
Faut lui parler.
Faut lui parler, faut lui murmurer un peu, mais voilà quoi. Donc ça demande beaucoup de temps, et le but de ce concours-là, en fait, c'est d'être le plus rapide, efficace, tout en sortant un produit comme si il était en boutique, en fait.
Tu as eu l'occasion de goûter aux autres pains au chocolat de tes concurrents ?
Non, on n'a pas eu l'occasion de goûter. Il y a eu beaucoup de jurys, plus d'une vingtaine, je crois, comme il avait dit Youssef. Et donc nous, on n'a pas pu goûter, mais voilà quoi.
Ouais, tu peux pas savoir si le leur ou le tien était meilleur.
Non.
C'est pas décevant, non ? C'est pas grave ?
Ouais, et non. C'est toujours mieux de goûter ce que font les autres pour voir nos erreurs ou prendre des idées ailleurs. Mais bon, après, le jury s'est régalé, et puis c'est le principal, on va dire.
Oui, tu as eu quand même de bonnes notes, même si tu n'es pas arrivé premier du classement. Il y avait quand même du sourire, il y avait de la joie dans toutes ces personnes qui ont goûté à ton pain au chocolat.
Oui, bien sûr, bien sûr. On n'est pas arrivé premier, mais bon, ce qu'on retient, c'est l'expérience, les bons moments, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Youssef, Abdel, Fatima. Il ne faut pas qu'on oublie Hamid aussi, il n'est pas là, mais... Une petite dédicace à Hamid. Et
vous étiez 5, hein, pardon.
On était 5. Donc,
tant pis pour lui, la vécaille.
Non, faut pas dire ça. C'est méchant, ça.
Non, je plaisante.
Non, donc franchement, c'était un bon moment. C'était agréable. C'était un moment de partage. Donc, on a fait des connaissances. On a appris à mieux se connaître aussi entre nous. Et puis voilà quoi, c'était vraiment top. Nadia aussi qui était là, la femme à Youssef, Karim qui était là.
Oh bah elle est toujours là.
Elle est toujours là, elle est au top, ils sont tous au top. Donc franchement, on était très bien entourés.
Et sa femme a goûté vos préparations en vous disant faut mettre un peu plus de ceci, de cela? Non.
Si, sa femme, elle a goûté, et puis tout le monde donne son avis, comme ça on évolue.
Donc c'est intense, ça court dans tous les sens. Tu fais attention à pas bousculer ton camarade non plus en allant chercher un ingrédient et tout. Je pense que vous êtes focus vraiment dans votre recette, dans la préparation. Donc ça peut arriver malheureusement, hop, tu touches le bras de quelqu'un ou pas.
Ouais, c'est vrai. Après, c'est plus, faut être focus sur son produit et surtout au niveau du temps, parce que l'heure ça passe, ça tourne très vite. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, fallait être très rapide et efficace. Donc ça demande une grande concentration. Et surtout, essayer de louper aucune étape.
Abdel, tu connaissais Issam un petit peu ou pas du tout ?
Non, ça a été une découverte.
Donc vous vous êtes aussi complété finalement, même si vous n'étiez pas forcément dans la même catégorie, mais tu as pu goûter quand même à son pain au chocolat, et inversement Issam aussi.
Oui, absolument. Bah, pendant les périodes où il était chez nous, on a pas mal discuté, on s'est donné des conseils l'un l'autre, et on a pu progresser rapidement grâce à ça.
Abdel, c'était cool aussi, c'était quand même un esprit assez de partage, il y avait de la convivialité, même si c'est quand même une compétition, la Coupe du Monde. Les autres participants, ils ont échangé un peu à discuter ou pas, ou c'était vraiment très fermé chacun de son côté ?
Ah non, on était tous ensemble sur le même navire, donc on a tous partagé des conseils, malgré qu'on était concurrents, et chacun a donné le meilleur de soi-même.
Vous connaissez un peu l'anglais ou pas ? Vous parlez un peu anglais ? Pas du tout ? Pour Fatima ?
Non, pas vraiment.
Parce que ceux qui viennent du Vietnam ou d'autres pays parlaient éventuellement soit dans leur langue ou soit en anglais. Mais ça va, t'as réussi à te faire comprendre facilement ?
Ben, on essayait avec les bases de se faire comprendre, et puis ça a été.
Quel a été quand même le rendez-vous le plus compliqué sur ces 3 jours de Coupe du Monde, du pain au chocolat et de la chocolatine? Est-ce qu'il y a eu un moment où c'était pas... Il a dit ça, mais éventuellement le temps, effectivement, pas assez de temps pour préparer cette pâtisserie?
Alors oui, il y a un moment en particulier qui durait 1h30. Donc on a des phases de préparation et entre ces phases-là, il y a des phases de repos. Alors la phase du milieu, on avait 1h30 pour tourer le... Alors tourer, ça veut dire on met le beurre et on fait des pliages. Et c'est très compliqué et il faut le faire très rapidement. Et c'est là où on a le moins de temps possible et il faut aller vite, très vite.
La même difficulté pour toi, Fatima?
Oui, c'était pareil, à la même étape. Donc en fait, quand on fait le tourage, il faut laisser un temps de repos au frais. Et on n'a pas eu forcément le temps, c'était assez compliqué pour ça.
Toi, tu as utilisé de la banane aussi. C'est particulier de mettre ça avec un pain au chocolat. Donc c'est pas du tout le même temps de cuisson. C'est différent au niveau du thermostat. Parce qu'un pain au chocolat, c'est quoi le thermostat justement pour le pain au chocolat? Quand tu rajoutes des fruits ou autre chose, c'est différent, c'est une autre matière qui vient s'insérer dans celle-ci.
En fait, le caramel sur le pain au chocolat, je l'ai ajouté au-dessus, donc il fallait attendre aussi qu'il refroidisse, et après j'ai poché du caramel au-dessus.
Donc prête à repartir l'année prochaine pour une prochaine Coupe du Monde ou un autre concours?
Pourquoi pas, on apprend toujours, donc c'est toujours bien.
Cette année-là, il n'y a pas forcément de concours ou quoi que ce soit?
Si, j'en ai un qui est dans quelques mois, donc ça va être début 2025, mais en chocolaterie.
Et toi, Issam?
Pour repartir, ouais, j'aimerais bien repartir, mais par contre avec la même équipe, hein, Youssef, etc., parce que franchement, c'était vraiment top. Et pourquoi pas, ça sera encore un autre challenge, et puis ça nous permet d'évoluer, donc on repartira encore plus fort, avec plus d'idées. Et vu que c'était une première, donc on savait pas comment ça allait être organisé, etc. Donc maintenant, on va dire qu'on sait comment ça se passe, à quoi s'attendre, donc on sera encore plus préparé.
Toi, Abdel, un concours là, d'ici quelques semaines, quelques mois ou pas?
Oui, le meilleur flan.
Le meilleur flan, et c'est prévu sur quelle période, Youssef? Le mai, juin, juillet? Ça existe depuis combien d'années, tu sais ou pas, Youssef? Non, il sait pas. Mais en tout cas, le flan, c'est vrai que ça aussi, c'est un gâteau très prisé.
Ouais, il est très demandé. Les gens l'aiment beaucoup. Et puis très gourmand. Et puis les gens c'est un gâteau qui évolue de plus en plus. Les gens le changent un peu. Du flan, ils vont passer à un flan pistache, un flan. Bon, le flan aux fruits, c'est connu. Il se décline exactement. Donc voilà.
Merci, Sam.
Abdel, quel est ton gâteau préféré? Celui que tu adores faire ou là, tu te sens, je sais pas, sur une autre planète? Tu es sur ton nuage?
Les entremets en particulier. Les entremets et la glacerie.
Toi, Issam?
Moi, j'aime tout ce qui est Paris-Brest, praliné, tout ce qui touche aux fruits secs et beaucoup les éclairs.
Et Fatima?
Moi, pour le manger, personnellement, c'est quelque chose de simple. Donc, je partirais sur un tiramisu ou un fondant au chocolat. Après, pour les faire, c'est tout ce qui est à la chocolaterie, donc les bonbons au chocolat.
Eh bien, vous nous donnez extrêmement envie. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus pour avoir évoqué la Coupe du Monde de la chocolatine et du pain au chocolat. C'était à Toulouse en mars dernier. Vous avez représenté le Maroc. L'année prochaine, c'est aussi sur la même période de toute façon. Hein. C'est tous les 2 ans, Youssef me souffle dans mon oreillette. Merci Youssef aussi. Toi, tu les as beaucoup encouragés, coachés. Toi, tu as pas trop fait la cuisine finalement sur place.
Ah si, j'étais candidat.
Si. Ah si, t'étais candidat quand même.
Ça a été difficile parce qu'il fallait organiser l'événement et puis être candidat. Mais on a réussi, on l'a fait, on s'est aidé et puis on a été au bout.
Félicitations, merci Youssef El Gâteau.
Merci à vous tous.
On te retrouve à Argenteuil, la maison Héloïse. Merci à Abdel, c'est aussi la maison Héloïse. Merci à Issam, c'est le Moulin du Lac à Enghien-les-Bains. Et merci à Fatima, pâtissière aussi, à Paris dans le 10e arrondissement, chez Christophe Michalak. La boulangerie, elle s'appelle Michalak tout simplement, non?
Oui, c'est ça, c'est la pâtisserie et la boulangerie Michalak.
Merci encore, bravo, félicitations, à très vite sur IDFM Radio. IDFM Radio, bon week-end, bonnes vacances. On va parler du salon des marques dans l'industrie des licences en France. C'est un festival, c'est pas un festival, pardon, c'est un salon qui a eu lieu début avril, organisé, initié par Nathalie Chouraki-Gerson. Le salon s'appelle Cobrance et elle sera accompagnée de Franck Matet, porte-parole de Jouet Club.
Oh,
d'FM Radio aujourd'hui, nous sommes maintenant avec Nathalie Chouraki. Gerson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous parler d'un salon professionnel, mais ça intéresse aussi le grand public puisqu'on va parler des jeux, des jouets, des licences. Le salon s'appelle Cobrands et c'était les 4 et 5 avril dernier à Paris dans le 16e arrondissement.
Tout à fait. Et on a...
Oui.
Et on a fêté les 20 ans.
C'est ça, 20 bougies déjà, un énorme gâteau. Je l'ai pas vu, je suis désolé, j'ai pas pu rester. J'ai assisté uniquement à la conférence où il y avait Franck Mattei qui est aussi avec nous aujourd'hui ce matin sur EDFM Radio. Bonjour Franck.
Bonjour.
Qui représente, qui est le porte-parole de Jouet Club. On l'appelle aussi dans le milieu Mister Jouet. Hein.
Exact.
Tu passes à la télé depuis quelques années sur les tendances, beaucoup sur Noël. Et c'est vrai qu'on t'accueille régulièrement pour nous présenter à la fois des nouveautés, mais aussi comment fonctionne le marché. Merci aussi de nous avoir proposé la venue aujourd'hui de Nathalie Chouraki-Gerson, donc qui s'occupe, vous êtes à l'initiative de ce salon qui vient de fêter donc début avril ses 20 ans. Et avant, l'ancien nom, c'était... Casa Choc, hein.
Exact, c'était Casa Choc. Et oui, je suis à l'initiative de cet événement qui a aujourd'hui c'est lettre de noblesse et c'est très respectable exposants puisque on a réussi en 20 ans à faire venir des marques comme Batman, comme Dora l'exploratrice en son temps qui revient, comme Barbie bien évidemment, enfin toutes ces marques issues de l'entertainment et du jouet et qui sont aujourd'hui des licences accomplies qui se développent sur des produits dérivés.
Donc les distributeurs Universal, Warner, hein, qui effectivement à côté de tout ça, en plus de diffuser des films, proposent une multitude d'objets dérivés. Hein.
Tout à fait. En fait, c'est pas eux qui les proposent directement. Eux, ils sont propriétaires de l'œuvre. Donc, si on prend Universal Studios avec Jurassic Park, par exemple, eh bien, eux sont bien évidemment propriétaires de l'œuvre, je me répète. Mais ils concèdent, en fait, l'autorisation d'utiliser leur marque et la charte graphique et toutes les illustrations à des industriels qui, eux, ont la compétence et le savoir-faire pour faire... des draplages, des jouets bien sûr, des lunettes,
ça permet
des
en tout
chaussures.
Cas de continuer à faire vivre la
vraie
série
rencontre.
Ou le film en tout cas.
C'est une vraie rencontre avec le consommateur fan et le consommateur non fan, mais qui regarde la série, se plonge complètement dans l'univers et va retrouver dans certains magasins, en tout cas dans certains rayons, des produits à l'effigie de leur héros préféré.
Mais attention, il faut que ça fonctionne aussi à l'inverse, hein, que tous ces produits dérivés, si on en a encore aujourd'hui, c'est parce que derrière, le film a du succès, il est aussi multi-rediffusé à la télévision, parce que dès qu'on parle plus d'un phénomène... Bah derrière, il y a pas de vente normalement.
Il y a moins de ventes, c'est sûr. Oui. Donc l'animation marketing, communication de la marque, du personnage qui va être posé sur les produits dérivés, c'est indispensable pour que tout ça continue à fonctionner sur une actualité en fait.
D'où vient exactement l'idée d'avoir réuni tous ces professionnels il y a une vingtaine d'années ? Vous êtes déjà issu du milieu du jouet, vous avez travaillé pour la célèbre marque Mattel.
Eh bien c'est exactement quand j'ai quitté Mattel.
En quelle année, pardon ?
En 2000.
En 2000
tout pile. J'ai quitté Mattel, j'ai rejoint une société dans la licence, donc dans le licensing. Et puis là, je me suis rendu compte que, ben en fait, c'était pas très très structuré et que les gens ne se connaissaient pas les uns avec les autres. Alors que dans le jouet, il y a toujours un salon, un annuaire à l'époque papier bien sûr, une fédération. Enfin, tout ça c'était très organisé. Et dans la licence, nada. Donc, je suis allée faire le tour des détenteurs de droits, donc les ayants droit, les Warner, Mattel, etc. En disant, je vous propose exposer toute l'actu de vos droits. Et moi, je vous fais venir des visiteurs qui sont des industriels qui vont devenir vos partenaires. Et au-delà des industriels, les agences de communication et la grande distribution qui est très, très intéressée à connaître les tendances. Donc oui, je viens du jouet et c'est grâce au jouet que Casa Choc Cobrands a vu le jour.
Et c'est pour ça que régulièrement, Franck Mattei vient aussi en quelque sorte lui faire son marché et aussi intervenir pour expliquer certaines problématiques.
Oui, ce qui est intéressant dans le Salon Cobrand, c'est que c'est en fait le grand rendez-vous, c'est le grand rendez-vous des œuvres et c'est le grand rendez-vous des acteurs. Et lorsque on veut être au courant de ce qui va se passer, si on veut aussi monter des opérations, si on veut faire des actions de communication, si on veut développer des produits, eh bien, on va pouvoir rencontrer toutes ces personnes qui représentent des studios, des films, des dessins animés, des événements sportifs ou des œuvres littéraires pour construire avec eux des projets qui vont finalement servir l'activité commerciale et en même temps qui vont apporter, eh bien, des propositions très pertinentes pour les consommateurs.
C'est une question de sous aussi, pardon, mais quand on arrive dans le salon, on est dans un univers féerique. J'ai vu certaines marques échanger tout simplement autour d'un jus de fruits, discuter sur une peluche, sur un porte-clés. Nous aussi, on pourrait créer pour notre marque ceci, cela. Et ça n'existait pas donc avant le 20e anniversaire de Cobrand.
Non, ça n'existait pas.
Il y avait pas ou sinon c'était des échanges par téléphone ou par mail. Il n'y avait pas forcément de rendez-vous physique. Ça pouvait arriver, mais c'était pas aussi important qu'aujourd'hui.
Alors en fait, c'était exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des rendez-vous physiques, un peu de mail, un peu de téléphone, mais les détenteurs de droits, les propriétaires de Batman, etc., eh ben faisaient eux la visite sur les salons professionnels, c'est-à-dire que ils faisaient Maison et Objets, ils faisaient le salon du textile, ils faisaient le salon de la chaussure, ils faisaient le salon de la lunette, et là ils allaient démarcher ces futurs partenaires. Le fait d'avoir créé Casa de Choc a inversé le principe. J'expose ce que je sais faire et les visiteurs, les industriels vont venir eux se présenter et découvrir les tendances. Il y a quelque chose d'important qui est à noter à Cobrands et dans le monde de la licence, c'est qu'on parle toujours de l'avenir. Et ça, c'est extraordinaire. Quand vous dites c'est féerique, c'est vrai que le bar, il était avec toute l'ambiance des lapins crétins et il nous présentait l'animation en réalité virtuelle qui arrive au Futuroscope, là, à la réouverture du Futuroscope. Donc, on est tout le temps dans la projection de l'avenir. Et ça, c'est quelque chose de extrêmement excitant de savoir qu'en 2025, il va se passer ça là et que peut-être il y a des prémices sur 2026 même.
Et puis Cocorico aussi cette année, les Jeux Olympiques, donc les peluches, tous les produits dérivés qui sont sur le marché, qui arrivent là très vite, en juillet, en août. La terre entière va nous regarder et va sûrement acheter notre mascotte, les fridges. On va en parler d'ici quelques minutes. Mais juste avant, qu'est-ce qu'une licence, Nathalie? Comment on pourrait définir ce mot?
Une licence, c'est une marque qui a du contenu et qui peut se diversifier sur de multiples supports. C'est-à-dire que finalement, une œuvre, elle a des aspérités. Et on va pouvoir la sortir de son livre, par exemple, et la représenter sur une housse de couette, de la représenter en peluche, la représenter sur des lunettes, la représenter sur plein de produits, de ce qu'on appelle les produits de grande consommation. Et en fait, ça fonctionne à partir du moment où l'acheteur, l'enfant ou l'adulte, se retrouve avec une émotion en portant le produit, en le mettant contre son téléphone si c'est une coque de téléphone ou avec sa brosse à dents si c'est tout simplement pour le petit plaisir de retrouver son héros au moment d'aller se coucher.
Donc, c'était quoi cette année les thèmes aussi pour ce 20e anniversaire? Est-ce qu'il y avait vraiment un axe précis?
Non, l'axe précis, vraiment la mise en avant cette année, ça a été la licence JO parce que c'est exceptionnel pour la France et Paris 2024, d'accueillir cet événement qui est mondial. Et c'est vraiment la licence qui va faire le chiffre cette année en plus.
Franck, plus cette licence est dispatchée à travers différentes marques, plus elle a de l'importance à faire effet, à vendre aussi, à ce que le public soit au rendez-vous.
En effet, lorsque la licence elle a une capacité d'exposition qui est extraordinaire, comme peut l'être les Jeux Olympiques ou un grand film, hein, je prends l'univers Star Wars par exemple, eh bien derrière on a la possibilité d'appliquer des éléments figuratifs de cet événement ou de cette œuvre sur un très grand nombre de produits. Par exemple ici, on a quelques illustrations de ce que peuvent être des produits dérivés de Paris 2024. Évidemment les fridges, c'est le personnage clé qui a été créé, la mascotte.
Le bonnet phrygien. Voilà. Cette belle peluche. Donc, il en existe deux, hein. Une pour les Jeux Olympiques et n'oublions pas les Jeux Paralympiques aussi, hein.
Exactement. Ça, c'est tout le travail que fait le comité d'organisation des Jeux Olympiques de valoriser aussi bien les Jeux Olympiques que les Jeux Paralympiques. Et donc, la Fridge, elle va se décliner en deux versions et on va la retrouver évidemment en jouet, mais on peut aussi la retrouver en porte-clés. On peut la retrouver en monnaie, comme ici avec la monnaie de Paris. On va la voir sur des brosses à dents, par exemple, qui sont faites par Polyflamme, ou sur des pansements. Et puis, on a aussi bien Paris 2024, qui est finalement qui signifie cet événement avec ce logo qui a été créé et que là on va retrouver notamment avec le jacquard français sur des torchons. On peut le retrouver sur du dentifrice, on va l'avoir aussi en pins, on va l'avoir en allume-bougie.
Donc ça, c'est plein d'objets avec aussi différentes marques. Il n'y a pas qu'une seule marque qui a la propriété de notre mascotte.
Effectivement, parce que ce qui est important pour l'ayant droit, Nathalie le disait tout à l'heure, c'est de trouver des entreprises avec des savoir-faire. Et donc aujourd'hui, lorsque la licence, elle a un très très grand potentiel auprès des consommateurs, eh bien, on va aller rechercher un maximum de produits différents. Et évidemment, derrière ces produits se trouvent des entreprises. Pour Paris 2024, aujourd'hui, c'est plus de 70 entreprises qui sont partenaires du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et ces 70 entreprises ont fait plus de 6000 références différentes. Donc, on voit finalement une collection énorme qui va se retrouver dans tout type de magasins. C'est plus de 10 000 magasins qui vont avoir au moins un produit Paris 2024 dans leur rayon. Donc, ça donne une exposition et finalement une capacité à être acheté par les consommateurs, puisque le chiffre prévisionnel attendu sur la licence Paris 2024, c'est 1,3 milliard d'euros pour l'année 2024, quand on sait que l'ensemble des produits dérivés en France représente en 2023 6,5 milliards d'euros. Donc, c'est un phénomène extraordinaire qui va avoir lieu cette année. Donc l'année prochaine, le soufflet va retomber, donc on va reprendre un rythme normal. Mais là, il y a quelque chose de très fort. Et quand on voit la qualité des produits qui sont proposés, la diversité des produits qui sont proposés, eh bien, ça, c'est ce que Cobrands nous a démontré dans son analyse des évolutions du marché de la licence depuis 20 ans. Aujourd'hui, il y a une diversification de produits dérivés qui permet de concerner finalement les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les adultes, jusque aux grands-parents, aux arrière-grands-parents.
On va continuer à échanger d'ici quelques minutes. Est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi aussi avec une licence? Je vous poserai la question d'ici quelques minutes. IDFM Radio, nous sommes avec Franck Mattet, porte-parole des magasins Jouet Club. Il y en a combien, tu te souviens, ici sur le Val d'Oise?
En fait, on a un magasin dans le Val d'Oise, à Herblay, à la Patte d'Oie.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà un beau magasin.
Et nous sommes toujours avec Nathalie Chouraki-Gerson qui a créé le salon professionnel, le salon des marques dans l'industrie des licences en France. C'est, on le rappelle, Cobrands. Hein.
Exactement.
Et avant, c'était Casa Choc.
Casa Choc, ouais.
À tout de suite sur IDFM Radio.
Oh nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle Bella Notte. Et sous les cieux, des étoiles plein les yeux, on t'appelle Bella Notte. Deux par deux, comme des amoureux, vivez l'enchantement. C'est l'amour qui vous appelle, de tout cœur, répondez-lui. Oh nuit, belle nuit, dans le ciel c'est écrit qu'elle est belle, belle à noter. Ciel d'Italie, on t'appelle Bella Notte. Et sous les cieux, des étoiles plein les yeux. on t'appelle Bella Notte. De tout cœur, répondez-lui, pour lui, belle nuit, dans le ciel c'est écrit, elle est belle, belle à noter.
IDFM Radio, nous sommes toujours avec Nathalie Chouraki-Gerson qui a créé le salon des marques dans l'industrie des licences en France, c'est Cobrands. Je rappelle, avant c'était plutôt Casa de Choc, mais finalement c'est la même chose. Hein.
Oui, c'est tout à fait la même chose. On a changé de nom.
Bon, c'est pas un nom très parlant quand même. Ça explique pas derrière qu'on va découvrir...
Alors, on a voulu faire
forcément des licences ou...
Non, on a voulu faire un petit jeu de mots puisque Cobrands, c'est la collaboration entre les marques. Et on peut décliner copyright, donc l'association des marques qui se dépose, co-branding, des marques qui se font plaisir à travailler ensemble, content, parce que une marque sans contenu, elle n'existe pas. Et voilà, c'est pour ça qu'on est parti sur co-brands. Mais c'est vrai que c'est...
C'est une ouverture vers le monde, finalement. C'est un mot anglais aussi, donc...
Tout à fait. Il y a un monde... Voilà, on a grandi... Et on est passé de Casa de Choc à Cobrands pour s'ouvrir au plus grand nombre.
Et Casa de Choc, bah, ça fait penser à la danse, pardon.
Ah, mais c'était l'idée.
C'était l'idée.
Tout à fait. Casa de Choc, on voulait à l'époque trouver un nom qui ne soit pas usité du tout et qu'on en fasse quelque chose. Donc, c'était une volonté.
Ce salon à destination des professionnels, mais après, ce type de salon, on peut le retrouver aussi pour le grand public. Bon, moi, effectivement, dans la négociation, c'est différent. Mais quand moi, je suis arrivé, j'avais l'impression d'être dans un salon où j'aurais pu faire venir mes enfants, par exemple. Parce qu'il y a des mascottes, il y a des personnages de partout. C'est coloré, comme on l'expliquait.
Mais on adorerait pouvoir ouvrir un troisième jour pour le public et faire que, justement, les familles puissent se balader et prendre même des photos avec les décors que tous ces exposants mettent en place.
Parce que l'envers du décor, ce serait intéressant aussi un petit peu de le découvrir. Mmh. Surtout que vous faites souvent appel à des familles. Quand j'ai assisté à la conférence, les marques font des études auprès des enfants, auprès des familles, pour savoir comment fonctionne telle ou telle licence. Pourquoi aujourd'hui on va plus vers le Made in France et moins vers ce qui est fabriqué à l'étranger?
Oui, c'est tout cet écosystème-là, en fait, réfléchit en permanence et lance des études, interroge les familles pour s'assurer que la licence va correspondre aux attentes et que on puisse la manager de façon à ce que ça soit un succès. Donc oui, il y a beaucoup d'études et nous, on a fait d'ailleurs à l'occasion des 20 ans, on s'est retourné un peu dans le rétroviseur et on a regardé ce qui avait changé et ce qui a évolué dans ce monde-là. Et il y a quelque chose de fantastique qui est ressorti. C'est justement la collaboration entre le détenteur de marque, donc l'ayant droit, et l'industriel, le professionnel qui a le savoir-faire dans les mains. Et maintenant, ils se parlent et ils font des produits magnifiques.
L'ayant droit, en règle générale, c'est la famille?
Oh, ça va dépendre. Le petit Nicolas, c'est la famille. Puisque c'est la fille d'Anne Goscinny, par exemple. La fille de René Goscinny. Maintenant, chez Warner, c'est pas forcément la famille, hein, oui. Si vous voulez.
Voilà. Ce sont des grands studios. Aujourd'hui, c'est des grands studios parce que c'est des productions qui nécessitent des moyens considérables. Et puis, c'est aussi des œuvres qui sont à promouvoir dans le monde entier. Donc, on a des auteurs, mais ce sont des grands studios qui sont derrière tout ça.
On est toujours aussi avec Franck Mattet, porte-parole de Jouet Club. On parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques avec tous ces objets, ces peluches qui sortent autour de cet énorme et gigantesque événement pour nous, hein, à la France, puisqu'on n'a pas vécu ça depuis nombreuses années. Voilà. Hein. Moi, je suis excité. Certains sont pas trop enthousiastes, mais quand ça arrivera, à mon avis, tout le monde sera emballé parce que de voir toutes ces équipes, même si ça va pas aux quatre coins du monde, ça quand même fédère. Et puis on va voir quand même toute cette générosité un peu partout, à droite à gauche, en plein cœur de Paris. Oui, ça va être embêtant pour la circulation, mais faut le prendre dans le bon sens finalement, Franck.
Oui, c'est un événement extraordinaire et puis c'est un événement qui a une visibilité mondiale et qui a une attractivité mondiale. On attend plus de 15 millions de touristes en France cette année, spécifiquement pour les Jeux Olympiques. Donc ça va être merveilleux. Aujourd'hui, on est encore dans la fin des préparations. La flamme olympique arrive bientôt, début mai. Et donc petit à petit, on va rentrer dans l'ambiance. Et dès lors que la compétition va être lancée, eh bien là, il va y avoir toute cette euphorie qui est liée à un événement sportif de cette dimension. Et bien évidemment que on voudra avoir un souvenir de tout ça, et ce souvenir on va le trouver dans les différents produits dérivés qui vont être faits, que ce soit des objets souvenirs pour exposer, pour les avoir comme compagnons, ou tout simplement pour se retrouver dans les produits de notre quotidien.
C'est un enjeu économique important, bien évidemment, aussi pour notre pays, parce que il y a un savoir-faire, comme on l'a dit, pour les peluches Fridge, c'est Gypsy, on l'a dit, et Doudou et compagnie. Ça va peut-être aussi leur permettre de rencontrer, d'avoir d'autres contacts avec d'autres pays, même s'ils les ont déjà, et de voir qu'on fait du merveilleux travail aussi en France.
Absolument. Une des forces des produits dérivés pour un industriel, c'est de montrer son savoir-faire. Et lorsque vous êtes associé à un grand événement, ou un grand film, ou une grande saga en télévision, eh bien, ça vous apporte une reconnaissance, une crédibilité, une légitimité sur votre marché. Et ça, c'est bon pour le développement de vos affaires dans les années suivantes.
Alors, est-ce qu'on peut tout faire quand on a acheté une licence ou pas? Ou non, il y a quand même des règles à respecter.
La règle, c'est la cohérence. C'est-à-dire que on peut faire énormément de choses en produits dérivés, puisqu'en fait, le produit dérivé vient s'appliquer sur un produit qui existe déjà. Hein. Donc, on va inventer quelque chose quand il faut le faire à l'image du personnage clé de l'histoire, de la saga ou de l'événement. Mais sinon, on va appliquer l'image du produit sur des produits existants. Donc, ça veut dire que si on est cohérent, par exemple, on pourrait pas faire quelque chose qui soit en opposition avec ce que représente le produit. Mais à partir du moment où on est dans un univers qui est sympathique, eh bien, on peut faire de tout, que ce soit des produits d'hygiène beauté, que ce soit des produits de linge de maison, que ce soit des médaillons, des jouets, des produits textiles, des chaussures. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est la créativité et surtout, c'est le savoir-faire de l'industriel partenaire.
C'est fou, hein?
Oui. Alors, c'est complètement impressionnant parce qu'on peut en mettre partout. Mais par contre, il est intelligent et intéressant de respecter des règles pour ne pas en mettre partout. Parce que ce que disait Franck est très important. La cohérence, c'est le plus important. Et donc, l'ayant droit, le détenteur de la marque, il commence de toute façon par des limites. Faut pas exagérer. C'est-à-dire que demain, Batman n'a pas le droit d'avoir une cape bleue. Ça serait complètement incohérent. Bon, ben voilà, je prends un exemple un peu bizarre, mais il y a des règles, il y a des règles systématiquement.
Que dans 150 ans, il aura une cape bleue.
Peut-être, mais aujourd'hui, le contrat...
Quand ça tombe dans le domaine public aussi, est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec un... On l'a vu dernièrement avec Mickey, là. Mickey et Winnie l'ourson, qui ont été adaptés en film d'horreur, en fait. Je parle du premier dessin de Mickey, hein,
qui est écrit Mortimer.
Il y a une centaine d'années. Et là, depuis que ça a été déclenché, Disney a tout fait pour retarder, hein. Depuis que ça a été déclenché, depuis qu'il est libre droit, certains avaient déjà dans leur tiroir l'envie de faire un film d'horreur autour de Mickey. Ce qui est chose faite puisque, voilà, bon, c'est sorti, mais...
Oui, oui, après, il y a la force du personnage indépendamment de sa liberté de tomber dans le domaine public quelque part. Aujourd'hui, Mickey peut devenir le meurtrier dans 2-3 films d'horreur. Je pense que ça n'enlèvera en rien
la magie
de Mickey que Disney a su créer.
Oui, donc, parce que c'est du non maîtrisé, en fait. Là, on est dans des actions qu'on qualifierait de parallèles. Mais ce qui est important, c'est évidemment la démarche de l'ayant droit, quelle démarche lui il va employer. En fait, c'est de quelle façon il veut valoriser sa propriété. Et pour tirer le maximum de bénéfices de sa propriété, ben il faut être sur un marché le plus grand possible. Donc le marché, ça va être d'abord les territoires, mais aussi les nombres de produits, le nombre de références différentes qui vont être créées à l'image du personnage que l'on veut valoriser.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Nathalie, aussi dans les grandes évolutions de la licence ?
Les grandes évolutions de la licence, c'est le fait que ça parle maintenant à des gens qui ne sont plus des enfants. On a tous les adultes, les jeunes adultes, alors qui sont aujourd'hui, qui assument complètement leur choix d'acheter la navette spatiale de Star Wars chez Lego et d'y claquer entre 400 et 600 euros.
Donc ça, c'est le phénomène Kidult, hein.
Tout à fait.
Qui existe depuis combien d'années, Franck ?
Les Kidult, ça fait une bonne quinzaine d'années, mais on peut dire que depuis le Covid, on a eu une émergence de ce phénomène. Nous, on l'explique par le fait qu'aujourd'hui, les adultes sont décomplexés des héros de l'enfance parce qu'ils les utilisent dans les jeux vidéo, parce qu'ils les voient au cinéma, parce qu'ils les voient à la télévision, ils les voient sur les différentes plateformes. Et donc, finalement, ça devient un objet de socialisation aussi pour eux et de partage. Et donc là, on va être plus dans le jeu, hormis quelques exemples dans la construction, le puzzle par exemple, mais on va être dans l'exposition. Donc c'est de montrer, d'avoir ce personnage chez moi, ça me fait plaisir, ça me raccroche à quelque chose. C'est pas vraiment régressif, c'est voilà, de la compagnie, un objet de décoration, au même titre qu'une belle porcelaine du 19e siècle, eh bien je peux avoir une très belle figurine Super Mario de 30 cm de haut.
Aujourd'hui, c'est mieux compris. Il y a peut-être quelques années auparavant, si je portais un t-shirt Pokémon alors que j'ai 50 ans, c'était pas forcément bien vu.
Tout à fait. C'est une bonne explication. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'assumer complètement qui on est. Et j'aime Pokémon, j'ai 50 ans, and so what?
Oui, c'est naturel. En fait, on est plus choqué parce que ça fait aussi partie de notre quotidien. Avec l'immense visibilité de ces personnages, leur omniprésence sur différents supports, eh bien, ils font partie de notre quotidien. Ils sont tous connus. Pokémon, Pikachu, voilà, une grand-mère comme un enfant de 5 ans, sait qui c'est quel univers ça représente. Donc, du coup, eh bien, il y a ce partage entre les générations et cette appropriation selon l'âge que l'on peut avoir.
Mais on l'a dit, c'est pas du tout régressif. Ça permet aussi de rester un peu en enfance et on a tous besoin d'avoir ça en nous, qu'on ait 50, 70 ou même 90 ans.
Je vais donner un exemple cette année, enfin l'année dernière plus exactement, c'est le succès du film Barbie.
D'accord ? Ah oui, incroyable ce
phénomène.
Le film
Barbie, quand on va le voir et qu'on est un adulte, on se rend compte qu'il est tout fait, qu'il n'est surtout pas fait pour les enfants. Il faut pas emmener des enfants voir ce film. Bon, s'y ennuyer de façon phénoménale.
Oui, parce qu'ils n'ont pas à comprendre effectivement
la démarche, elle était tout à fait féministe, etc., etc. Bon, pour autant, le phénomène médiatique de ce film a porté des gammes de produits dérivés à destination des adultes et notamment la collection Zara qui a été mais dévalisée. Et je tiens à préciser aussi bien les tenues pour filles que les tenues de Ken, parce qu'elles ont été dévalisées également. Et puis, la collection plus classique sur la cible première, qui reste la petite fille. Donc, y a tous les phénomènes peuvent évoluer. Et ce qu'il y a de vraiment très nouveau, c'est cette multiplication de cibles qui vit en parallèle.
Et si le film n'avait pas fonctionné, du coup, ça aurait été...
Ben, en fait, Zara aurait été très très déçue de sa collaboration et ça aurait pas changé grand chose sur les ventes de jouets.
Parce qu'une collaboration, ça se négocie longtemps en avance.
Oui.
Warner savait qu'en 2022 commencerait le tournage du film Barbie. Je dis
bien
ça comme
évidemment.
Ça, une bêtise.
En fait, il y a une expression on appelle ça un line-up. Nous, on appelle ça un line-up. Warner, Disney, Universal, etc. Ils ont leur line-up, c'est-à-dire le calendrier de sortie, à 3 ans. Parce que il faut bien, quand on travaille avec un partenaire industriel, qu'il anticipe. C'est-à-dire que s'il y a un moule à faire, s'il y a une gamme à designer, etc., faut du temps. Donc, on présente 2025 en 2024 pour une sortie de produit courant 2025. On travaille toujours avec un an d'avance.
Franck, les tendances, là, Est-ce qu'elle se précise aussi pour Noël, par exemple? Est-ce qu'il y aura plus de ceci, de cela? Je sais qu'au mois de septembre, et comme chaque année, hein, toutes les grandes marques vont se réunir. Il y a peut-être encore des salons, des événements, là, cet été, pour les professionnels ou pas?
Oui, il y a des salons qui permettent de travailler, mais de travailler sur déjà 2025, voire 2026. Donc l'année 2024 est organisée, on est dans la finalisation des référencements et des commandes des jouets pour Noël. Il y a une très grande anticipation parce qu'il faut fabriquer pour que ce soit mis à disposition quand les clients vont venir. Donc les grandes tendances, la grande tendance cet été, ce sera évidemment les Jeux Olympiques. Ça va être un événement en magasin incroyable, notamment sur Paris. Et puis dans les grandes villes. Et pour les super-héros, eh bien on conserve la dynamique de 2023 avec toujours Pokémon et notamment le succès incroyable des cartes à jouer et à collectionner. Et puis les grands héros de notre enfance comme Pat Patrouille qui plaît toujours aux jeunes enfants, l'univers Star Wars qui est toujours extrêmement présent et Marvel aussi, et puis Harry Potter qui continue à garder sa position dans le top 5 des licences en France.
Nathalie Chouraki-Gerson aussi, il y avait toutes ces tendances finalement sur le salon aussi à début du mois d'avril pour les professionnels, même si certains, et comme on l'a dit, c'est aussi beaucoup plus loin. Hein. Par exemple, prenons l'exemple du film d'animation Pi qui est sorti il y a quelques années. Il y a une série, il y a plein de produits dérivés et je crois que j'ai vu dans le dossier de presse, c'est plus pour 2025 ou 2026. Hein.
Oui, Pile, c'est la société TAT Productions et qui, fort du succès de son film, a développé une série. Et effectivement, la série sera diffusée, en tout cas sur le marché français, pas avant fin 2025. Donc, c'est une tendance qu'on va voir arriver. Faut-il encore que ça devienne un succès et que ça se travaille derrière. Mais dans la tendance, Pile fera partie des aventures de 2025, ça c'est
les
sûr.
Les lapins crétins, on les a évoqués aussi.
Les lapins crétins.
Parce que comme il y a de nouveau quelque chose qui va se faire au niveau du Futuroscope à Poitiers, là aussi, des peluches, des porte-clés, plein de choses autour de ce phénomène.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir avec les lapins crétins, c'est qu'en fait, c'est une licence qui fonctionne de façon linéaire. Là, il y a une actualité avec le Futuroscope, mais les produits sont déjà présents et tournent gentiment. C'est une belle licence qui s'est installée et qui, sans dire un mot à part bouah, est très très forte.
Bon, on pourrait aller encore très très loin. On discute hors antenne, on discute sur l'antenne actuellement avec nos deux invités du jour sur IDFM Radio. J'en parlais avec Franck Mattei aussi il y a quelques jours. Le phénomène Godzilla et Kong aussi. Il y a eu un nouveau film qui est sorti dans les salles. Et vous avez, toi et Jouet Club, vous avez senti aussi quelque chose. Et donc du coup, vous avez sorti une gamme de produits. Hein.
Oui, chaque événement cinématographique est une belle occasion d'avoir des nouveautés dans les magasins. Et c'est important pour nous, commerçants, finalement, d'accompagner cette actualité qui va séduire les enfants, les adolescents ou les adultes avec une proposition dans nos rayons parce que on veut transformer finalement ce moment où on a partagé à travers un écran une histoire, on a apprécié un héros, eh bien, on veut le prolonger en jouant, on veut le prolonger en l'ayant avec soi, en l'exposant à son domicile. Et ça, ben, c'est possible grâce aux produits dérivés.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Le prochain salon Cobrands, Nathalie?
3 et 4 avril 2025.
Merci beaucoup. Toujours au même endroit.
Toujours au même endroit. La grande crypte dans le 16e.
La grande crypte. Et puis, Franck Mattei, donc porte-parole de Jouet Club. On peut te voir un peu partout.
Surtout dans les magasins.
Surtout, bien évidemment, dans les magasins. À bientôt sur IDFM Radio.
Down in this world ain't far, the faint of heart. Nah, feel like we were made to fall apart. I could build your heart an army, yeah. Don't gotta do this all by yourself. If you need someone, you call me, yeah. You got me, yeah. You got me. Oh, I could be a lifeline. Stay with you till the sunrise. When you're low, you tell me you're alone. I'll be by your side. Oh, I could be the reason that you don't feel your demons. When you're alone, they tell me you're alone. I'll be by your side. Oh, I could be a lifeline.
to glow, end of it. Reach your hand out in the dark, and I'll meet you halfway.
Cause your heart's an army.
Yes, it is.
You gotta do this all by yourself. If you need someone, you call me.
All you gotta
do. Look to your right, I'll be right here. I'll be by your side. Look to your left, look to your right, I'll be right here. I'll be by your side. Look to your left, look to your right, I'll be right here. I'll be by your side. Look to your left, look to your right, I'll be right here. Oh, I'll be your lifeline. Stay with you till the sunrise. When you're alone, it don't mean you're alone.
Et si on allait au cinéma pendant les vacances, pourquoi pas découvrir le film d'animation Les Aventuriers de l'Arche de Noé, l'histoire de Vinny et Tito. Elles vont avoir du mal, ces deux souris, à rejoindre l'Arche. Elles sont artistes, mais quand même, après avoir surmonté différentes épreuves, elles montent sur ce bateau et elles vont proposer un concours de chant qui va déterminer qui sera le chef de l'Arche de Noé, avec des chansons de Chico César ou encore Larissa Luz. Les Aventuriers de l'Arche de Noé, c'est en salle depuis mercredi dernier.
Tu vas construire une arche.
Hein?
Et tu vas y faire entrer deux membres de chaque espèce.
Il y a assez de place pour tout le monde.
J'ai l'impression qu'on a une souris de trop ici.
Nous avons été invités au plus grand buffet à volonté du monde.
Quand la cohabitation...
Personne ne mange personne.
On se calme.
...devient difficile...
Nous obéissons à la loi de la jungle.
Quoi de mieux pour désigner un chef qu'un concours de chansons.
Avec le bouc des environs.
Alors... Préparez-vous pour un déluge d'aventures.
Et puis n'oublions pas de vous préciser que dimanche 14, demain 14 avril, uniquement ce jour-là, vous pourrez découvrir l'un des derniers films des studios Disney, Luca. Ça se passe en Italie, l'histoire d'un jeune monstre marin. C'est un jeune garçon, c'est un jeune monstre. Il est accompagné aussi de son meilleur ami. Ils essayent de cacher ce secret, mais ça va être très 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 compliqué. Ce film Luca est disponible depuis quelques temps, depuis quelques années, sur la plateforme Disney Plus. Et là, il sort demain dans certaines salles de cinéma et uniquement le dimanche 14 avril. Luca, découvrons un court extrait de la bande-annonce de ce film d'animation.
C'est l'amour.
Ça va être le plus bel été de toute notre vie. On ira décrocher les étoiles. Ce sera fantastique. Mais à une condition.
IDFM Radio, c'est presque la fin de la matinale. Avant de se quitter, je voulais vous parler de Zeb, notre chat préféré. Après avoir souhaité devenir un super-héros, un tigre ou encore une licorne, Euseb a un nouveau rêve, devenir un valeureux viking. Ça vient de sortir chez Splash. Encore du délire avec de très très belles illustrations. Séverine Delacroix, Julien Flamand vous propose la nouvelle aventure d'Euseb, le chat qui rêvait de devenir un viking. Très très bon week-end avec IDFM Radio, bonnes vacances et on se retrouve très vite sur le 98 de la Monde FM ou encore en DAB+. Dans un instant, suite de la musique.
Les meilleurs ennemis du monde, voilà ce que nous sommes. Amorce de sourires et de bombes, et du mal qu'on se donne. C'est toi contre moi, on s'y retrouve, on s'y perd.
C'est toi contre moi,
on se révolte, on se soumet.
C'est toi contre moi,
la guerre encore, on s'y fait.
Mais toi contre moi,
pourvu qu'on reste. Les meilleurs ennemis du monde, et tant pis si on est. Le mariage du ciel et de l'ombre, je te hais comme tu es.
C'est toi contre moi,
on s'y retrouve, on s'y perd.
C'est toi contre moi,
on se révolte, on se soumet.
C'est toi contre moi,
la guerre encore, on s'y fait.
Mais toi contre moi,
pourvu qu'on reste.
Le détour quand tu prends de l'avance,
ennemi.
Le discours quand tu veux le silence. Mets-toi contre moi,
qu'on restera les meilleurs.